Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Il est 10h, il est largement temps de délibérer avec nous sur délibérer, cette fois-ci en deux mots, n'est-ce pas? Aujourd'hui nous sommes presque au complet, puisque Mariam a eu un petit souci de transport, donc du coup nous allons faire cette émission avec Alix, évidemment, à la technique. Merci Alix, toujours au poste. Tout de même Claire, qui va nous aider donc à mener cette interview. Et puis un invité de choix, Marcel, bonjour.
Salut.
Bienvenue sur cette petite émission. Donc on te remercie beaucoup d'être là. Et surtout qu'en ce moment, j'imagine qu'il y a beaucoup de raisons d'aller manifester. Donc, tu dois être pas mal de sorties en ce moment. Par exemple, je sais pas, mais hier, une réforme rejetée par 93% de la population active, qui met à peu près 1 à 3 millions de manifestants dans les rues depuis 3 mois et qui n'est dotée d'aucune légitimité institutionnelle. Cette réforme, donc, vient d'être approuvée par le Conseil constitutionnel. Qu'on dit composé de sages. Bon, chacun fera ce qu'il veut de cette information. Et je pense que si ça vous met pas les gens dans la rue, bah, on ne sait plus quoi faire, quoi. Donc, malheureusement, nous, on n'avait pas forcément envie de se consacrer entièrement et uniquement à ce sujet, puisque bah, y a d'autres luttes qui existent quand même, et d'autres militants et militantes qui s'activent sur d'autres fronts, et on avait aussi un petit peu envie de leur donner la parole, et notamment les militants et militantes écologistes, puisque effectivement on sort d'un épisode un peu particulier qui a été la manifestation à Sainte-Soline contre le chantier de la méga-bassine à Sainte-Soline le 25 mars, il me semble.
C'est ça.
Et qui a réuni pas moins de 30 000 manifestants et manifestantes qui ont bravé l'interdiction de manifester pour simplement revendiquer l'accès à l'eau gratuit pour tous et toutes, et pour lutter contre l'accaparement, la privatisation de l'eau, donc par une minorité privée. Évidemment, ce qui a énormément choqué, en tout cas une grande partie du grand public, ça a été la répression policière massive à laquelle on a assisté, puisque les manifestants et manifestantes l'ont payé assez cher. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu l'occasion de parler à la fois des luttes écologistes, de la répression policière qui a lieu en ce moment, et aussi... à la fin, peut-être qu'on ouvrira le débat sur la réforme des retraites, si ça te fait envie. Et déjà, peut-être pour commencer, j'aimerais te poser une question simple, mais essentielle. Comment ça va?
Là, ça va. C'est chouette d'être ici. En plus, comme je disais, j'ai pas besoin de me lever trop tôt ce matin, donc c'est plutôt...
Oui, ça va. C'est l'émission matinale qui commence à 10h. On est un peu tranquille, mais surtout, oui, c'est par rapport à cette manifestation qui a eu lieu maintenant il y a 2 semaines. Est-ce que tu t'es remis un petit peu?
Un petit peu, oui.
C'est ça.
Ben, je suis passé par plusieurs états. C'était assez clair que j'ai été traumatisé par ce que j'ai vu, et heureusement, j'ai pu avancer un petit peu, et c'est aussi pour ça que je suis là. J'ai besoin d'en parler aussi, ça me fait du bien aussi.
Bah, j'imagine que ça a dû être un épisode assez traumatisant. On en a, en tout cas dans les réseaux militants, il y a eu pas mal d'articles qui ont été publiés pour recenser justement à la fois les blessés, mais aussi les traumatismes psychologiques, puisque en fait on a vu des images. Enfin, personnellement, moi j'ai vu des images exceptionnellement choquantes. Et voilà, j'aimerais savoir aussi si peut-être tu as eu des échos d'autres camarades, comment vous avez réussi entre vous à surmonter ça, vous en avez parlé, vous avez...
Ben déjà, il faut rappeler que donc, l'Organisation des Soulèvements de la Terre a fait un appel régulier sur le besoin de support psy. Il a mis en place une cellule d'écoute, donc si jamais il y a des auditeurs, des auditrices qui n'ont pas eu forcément cette info, c'est important que même encore aujourd'hui, ils puissent les contacter. Et effectivement, la première étape, c'était vraiment un débrief émotionnel à chaud, donc avec les cellules affinitaires, donc avec les gens avec qui on est, voir ce qu'on a vécu, comment on l'a ressenti. Ensuite, il y a un temps de questionnement, mais donc ça, je pense que c'est plus sur le temps moyen ou le temps long, et peut-être plus avec l'organisation elle-même, mais vraiment le plus important, c'est le soin aux personnes, aux blessés, et donc ça, ça se fait en plus petit comité. J'ai la chance d'avoir une psyché chouette aussi, donc j'ai pu aller la voir. Et puis, il faut du temps aussi, tout simplement, quoi. Donc, j'ai encore beaucoup de questions ouvertes, mais psychologiquement, ça va mieux.
Tant mieux. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. On pense notamment quand même au courage que ça demande maintenant d'aller manifester. Et on se demande pourquoi il faut du courage, parce que techniquement c'est un droit fondamental, donc on ne devrait pas avoir besoin d'une constitution physique particulière ou d'une formation au premier secours. Donc vraiment, merci d'être là pour en parler. Je vais peut-être rappeler brièvement quand même pour les personnes qui n'auraient pas eu un exposé complet de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. En fait, il y a quand même eu une organisation je pense qu'on peut dire ce terme, une organisation, une mise en scène de cette violence que moi je qualifierais de policière, puisque on avait déjà à la base un dispositif policier conséquent, et même plus que conséquent, et donc composé de 3000 gendarmes et policiers qui ont lancé plus de 5000 grenades en tout. Donc, je crois que c'est le chiffre pour simplement les grenades lacrymogènes. Et on a eu un peu moins d'une centaine de grenades de désencerclement en quelques heures. Hein, puisque la manifestation en soi a commencé. Je ne sais pas si tu peux peut-être dire comment s'est déroulée la journée par rapport. Parce qu'il y a eu un cheminement vers les bassines qui n'est pas vraiment la manifestation, étant donné qu'il fallait simplement traverser des champs.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que contrairement, on va dire, aux manifestations urbaines, les manifestations autour des bassines, parce que c'est pas la première, il y a toujours une bonne marche en amont pour arriver sur le cœur du site. Et en fait, que ce soit cet événement-là ou les événements précédents, en fait, le trajet aller et retour, il est constitutif vraiment de l'action en elle-même. Et elle est un peu plus physique parce que ça, des fois il faut traverser des champs, des fois il y a de la boue, des fois il y a des barrages de flics aussi. Ça est arrivé, pas cette fois-ci, mais à la fois précédente. Et là, en l'occurrence, c'était une marche de 6 km, donc c'est pas grand-chose, mais avec un cortège de plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'était pas mal. Donc 6 km aller, 6 km retour, et pas mal de passages dans les champs, dans la boue, donc une marche un peu plus compliquée.
C'est un peu sportif, effectivement.
C'était un peu sportif, et c'est pour ça que le cortège est parti vers 10h du matin, pour pas trop traîner. Peut-être que les détails de chronologique sont flous hein, pour les gens.
Non, mais environ, approximativement, oui. Mais c'est pour donner l'idée par rapport justement aux manifs parisiennes qu'on connaît, où on peut partir vers 14h, rejoindre en 20 minutes à pied le départ de la manif. Enfin voilà, c'est quand même pas le même engagement physique, quoi.
Ouais, le brief la veille, parce que beaucoup de gens sont arrivés la veille sur place, dans un campement qui s'est vite transformé en champ de boue à force des pataugements. L'orga a été très clair sur le fait de pas trop faire la fête pour vraiment se préparer physiquement à une journée qui allait être longue. Ce qui a été plus ou moins respecté, d'ailleurs, on sentait beaucoup d'excitation.
Alors ça, bravo hein.
Jusqu'à un certain point, hein, on va dire, des groupes autonomes qu'on discipline, c'est pas forcément quelque chose qui va forcément de pair, mais on va dire qu'il n'y a pas eu de trop de débordements. Et en plus de ça, il y avait un besoin de vigilance la nuit précédente, parce qu'il y avait des groupes pro-bassines. Je pourrais y revenir sur pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui commencent à être très énervés dans cette région. Qui menaçait de faire du vandalisme sur les véhicules sur place. Donc il y a des tours de garde qui se sont organisés en amont de l'événement par ronde pour éviter les malveillances sur le campement au niveau des véhicules.
Et déjà ça pose une certaine ambiance, c'est clair.
Ah, c'était fatigant. Je pense qu'on a tous eu des... Enfin, il y avait l'événement de la manif qui était globalement très éprouvant, mais toute l'organisation en amont naval, effectivement, c'est pas le même engagement et c'est pas le même... niveau d'intensité. Ça pose aussi la question de l'accessibilité au site. Hein. On peut poser des questions de validisme aussi qui sont évidentes.
Des questions de validisme, puis aussi cette idée comme quoi finalement, à mon sens, lorsqu'on a une infrastructure justement qui pose beaucoup de questions d'un point de vue environnemental et d'un point de vue sociétal, et qu'on a une contestation qui s'organise, en fait, le fait que le site soit éloigné, pas forcément visible par tous, ça participe aussi à l'invisibilisation de cette lutte. Alors, heureusement, les soulèvements de la Terre ont largement contribué à la revisibilisation de cette contestation. Donc ça, on peut les remercier pour ça. Mais ça aurait pu, ou en tout cas, c'est depuis assez longtemps ignoré par le grand public, puisque effectivement ce sont des bassines qui sont situées quand même en milieu rural et pas facile d'accès.
Oui, ça m'évoque la rhétorique classique de, on va dire, des éditorialistes qui pointent les violences en tombant des nues, alors qu'en fait effectivement il y a un historique de cette lutte-là qui s'est d'abord fait sur des recours juridiques avec différents types d'actions. Et les actions qu'on voit aujourd'hui, c'est pas des choses qui sortent de nulle part, c'est vraiment des collectifs qui se sont montés et qui ont commencé à diversifier leur stratégie quand elles ont vu qu'en fait, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de bassines qui étaient complètement illégales au départ, et que la bataille juridique, elle continue en parallèle. Il y a des bassines qui sont rebouchées parce qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, elles peuvent pas être exploitées parce que...
La sécheresse.
Voilà, c'est de façon évidente. Et à nouveau, on peut pas penser au rapport du BRGM qui a été complètement retourné dans tous les sens. Donc en fait... Il n'y a pas de base scientifique, technique qui supporte ces...
On en reparlera quand du sujet, du fond, parce que ça mérite plus qu'une aparté. C'est vraiment... parce qu'on va parler des violences policières, je pense, au départ, mais puisque c'est quand même quelque chose qui est extrêmement choqué et je pense qui peut être important de débattre. Mais effectivement, le sujet principal, c'est quand même les méga-bassines et pourquoi il y a eu tant de manifestants et manifestantes ce jour-là. Je vais quand même juste continuer le petit exposé du dispositif policier en place qui avait été prévu très, très généreusement par la préfecture. Donc après, on a vu évidemment les quads, les fameux, auxquels personne ne s'attendait, je pense, avec notamment des tirs illégaux, mais ça, c'est la question.
Donc, de la part de la BRAV, on n'attend pas beaucoup plus. Hein.
C'est ça. On a eu 80 tirs de LBD. On a eu 4 camions avec canon à eau, quand même, pour vous disperser. Alors, en plus, j'imagine même pas dans les champs le ravage que ça doit faire.
Oui, c'est une erreur stratégique de la part des flics d'envoyer des camions où ils peuvent pas être utilisés. Lors de la dernière manif, ça s'est retourné contre eux parce qu'ils devaient le sécuriser. Enfin, là, c'est un peu une absurdité.
En fait, c'est aussi une démonstration, en fait. Pour eux, c'est l'idée de montrer le matériel qu'ils ont à disposition pour réprimer.
Oui, oui.
Puis après, ils testent, ils voient ce qui marche, ce qui marche pas.
Clairement, on était les rats de laboratoire.
Ah là là. Et puis alors, il y a eu aussi autre chose qui m'a énormément surprise, c'est, et peut-être qu'on en parlera après la première pause musicale, mais les produits de marquage codés. Et je sais pas si toi, c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais.
Alors, j'en avais déjà entendu parler. C'est des choses qui traînent dans les bruits de couloir depuis un moment. Et c'est pour ça que, notamment sur place, on retrouve beaucoup de gens qui s'habillent en bleu de travail et qui brûlent leur bleu de travail après pour éviter ce genre de choses.
Alors, je rappelle quand même ce que c'est. Du coup, ce type de produit, ce sont en fait des fusils qui tirent non pas des balles ou quoi que ce soit, mais en fait des projectiles composés d'ADN de synthèse. Et chaque balle, en fait, a une marque ADN différente, ce qui permet et qui marque évidemment sans laisser de traces visibles à l'œil nu. Simplement, il faut une lumière UV, je crois, pour pouvoir constater les taches. Et donc, ça marque à la fois la peau, les vêtements, tout ça. Et ça permettrait d'identifier l'heure et le moment et le lieu à laquelle la personne aurait été interpellée, sachant qu'il y a encore des imprécisions, puisque apparemment, on pourrait tacher une personne avec cet ADN de synthèse par contact. Dans les 15 minutes qui suivent, quoi. Donc ça n'est absolument pas précis.
Oui, alors donc effectivement, au début, cette technologie-là, elle était utilisée par des grandes enseignes pour lors des fracas de vitrines, pour asperger les personnes, pouvoir les marquer. C'est une technologie qui existe depuis un moment, mais on ne l'a jamais trop vue utilisée par les flics, donc il y a clairement des expérimentations à ce niveau-là. Ensuite, moi, je mets en garde plus contre un genre d'angoisse par rapport au flou que cette technologie-là représente. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas exactement comment ils l'utilisent. On sent qu'ils sont vraiment en phase de test. Il y a eu des témoignages d'un journaliste qui se fait contrôler avec ça, et les flics deviennent fous comme des gamins qui trouvent des autres packs, et ils commencent à dire... Et leur collègue dit, c'est leur nouveau joujou, ils ne vont pas vous lâcher avec ça. Alors que le journaliste était juste présent sur sur mail et avec sa carte de presse pour suivre la manifestation. Donc oui, clairement, à voir ce que ça devient, si vraiment c'est quelque chose de pertinent pour eux. Mais il faut surtout éviter la paranoïa, il faut prendre des mesures de précaution pour tant qu'on n'est pas sûr de ça. Mais ouais, ça demande d'être sûr de à quel point ça peut être...
En tout cas, il faudrait absolument empêcher ce flou juridique de, bah voilà, de permettre peut-être de plus d'utilisation ou des utilisations pas forcément raisonnées, raisonnables, notamment par rapport à la précision justement de ce type de marquage, et essayer de mettre les choses au clair et qu'il y ait une véritable législation quoi, qui encadre
cette utilisation. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu la réflexion sur l'aspect législatif parce que j'ai toujours tendance à penser que l'aspect juridique peut arriver un peu tard, mais peut-être que c'est mon expérience qui m'influe là-dessus. Mais oui, effectivement, ça pose des questions. Après, moi, j'ai vraiment le sentiment, et c'est l'ancien technicien qui parle en moi, que ce machin, c'est pas au point, et je vois mal comment ça pourrait l'être facilement. Mais je peux clairement, je m'avance. Hein, c'est plus
non, mais rassurons-nous.
Mais les mesures de sécurité, en cas de doute et prévoir des vêtements jetables, brûlables, ça reste une mesure assez simple pour s'en prémunir. Quoi.
Très bien, entendu, le message est passé. Je pense qu'on va faire peut-être une première pause musicale avec le quatuor occitan UAI. Donc je vous propose d'écouter une musique qui s'intitule « Aïe Mama ».
Dans quelques instants.
Dédi la fourest, y'a un riu qui raja, dédi la fourest, y'a un riu qui raja. Aïe mama, c'est sa biais, comme le riu fazi en vege. Aïe mama, c'est sa biais, comme le jen si souré campa. Voulez tout crumpa, la terre est lisambrée, voulez tout crumpa. La terre est lisambrée, aïe mama. C'est sa bièce, comment nous rire ou faisiez un vêtue. Aïe mama, c'est sa bièce, comment les gens s'y souraient quand pas. Voulien tout coupant, dédi loupous kadji. Voulien tout coupant, dédi loupous kadji. Aïe mama, c'est sa bièce, comment nous rire ou faisiez un vêtue. Aïe mama, c'est sa bièce, comment les gens s'y souraient quand pas. Voulien à ses cas, lutter des coups sans kadji. Voulien à ses cas. J'ai si souré qu'en bas. Voulez voir Bastille, la grandeur reste encore. Voulez voir Bastille, la grandeur reste encore. Voulez en verra, c'est qu'en sud est tada. Voulez en verra, c'est qu'en sud est tada. Si sous ma reine, face et ma couille, maman, c'est sa bièce. Comment c'est bien d'amour. Aïe, maman, c'est sa bièce. Comment nous rions, faisiez un vege. Aïe, maman. C'est sa bièce, comme les Jesse souraient quand pas. Aïe mama, c'est sa bièce, comment les gens s'y souraient qu'en pas. Si sous un terrain, père un pacha l'ou t'appelé. Si sous un terrain, père un pacha l'ou t'appelé. Aïe mama, c'est sa bièce, comment nous rire faisait un vège. Aïe mama, c'est sa bièce, comment les gens s'y souraient qu'en pas. Les messages passent. Si souré campal, les cris d'une coustade et l'autre et les grenades. Les cris d'une coustade et l'autre et les grenades. Des dîmes la foulaise, y'a des bouquets là tout. Des dîmes la foulaise, la fin tomba nous fraisé. Aïe mama, oublie d'en pas, l'ounou d'en pas, on est rémi fraisé. Aïe mama, oublie d'en pas, l'ounou d'une jouvée sacrificale.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et vous venez d'écouter Aï Mama du quatuor occitan UAE. Donc pour celles et ceux qui ne parlent pas l'occitan quand même, je vais vous préciser que c'est une chanson en hommage à Rémi Fraisse, donc, qui a été tué en 2014 par une grenade offensive tirée par la police. Donc lorsqu'il défendait la ZAD en lutte contre le projet du barrage de Sivens dans le Tarn. Bon, j'ai choisi cette chanson parce qu'effectivement, ça pouvait rappeler aussi la répression très forte qui existe à l'encontre des militants et militantes écologistes dès lors qu'ils franchissent le pas des actions un peu plus musclées pour se faire entendre. Parce que tu le disais, Marcel, tout à l'heure, finalement, quand on manifeste, quand on essaye de faire entendre sa voix par des recours juridiques ou par des pétitions ou par la sensibilisation du public à toutes ces causes écologiques, eh bien, en fait, on se rend compte qu'on n'est absolument pas écouté. Et du coup, on est obligé de passer par des actions de désobéissance civile, de désarmement, de... Enfin, voilà, tout ce qui va faire, en fait... qu'on va voir ces luttes, enfin, qu'on va les voir passer à la télé, à la radio, et sans ça, c'est pas possible de se faire entendre.
Ouais, ben, l'exemple des méga-bassines, il est assez intéressant là-dessus, parce que je pense que le moment où vraiment il y a eu une percée médiatique de ces manifestations-là et de ce phénomène-là, ça a été à l'événement de novembre dernier, où il y avait une manifestation qui a réuni 5 à 7 000 personnes sur un modus operandi très proche de ce qui s'est passé le 25 mars, où on a vu des élus débarquer, on a vu Poutou, on a vu même Jadot, qui n'avait rien à faire là.
Jadot ?
Oui, oui, il a voulu faire preuve de solidarité, et en fait, c'était un très mauvais calcul de sa part, il s'est fait huer et taguer sa voiture au retour, donc
je pense que... Ah, mais ça me rappelle quelque chose, le tag sur la voiture de Jadot, c'est vrai.
Voilà. Et
ah, des beaux souvenirs.
Et ça nous a beaucoup étonné de voir autant de présence médiatique et politique sur place. Bon, après, ce qui était désolant, c'est que à partir de ce moment-là, les médias s'en sont emparés sous le prisme de Darmanin a dit éco-terroriste, et on était là, bah, bon, c'est très bien, mais en fait, c'est peut-être pas le cœur du sujet. Mais oui, effectivement, je pense que c'est pas généralisable à toutes les luttes écologistes, et même pas bah, toutes les luttes, mais les recours juridiques ont leurs limites, le rapport de force, il est pas forcément là. Je sais qu'il y a la LPO qui peut être très utile dans ces cas-là pour poser des recours contre des projets quand il y a des espèces protégées sur place, et donc ça peut interrompre ou ralentir les travaux.
C'est quoi la LPO ?
Ligue protectrice des oiseaux, donc en fait qui peut faire valoir son expertise pour découvrir une espèce protégée sur le lieu d'un chantier ou d'un projet d'un gros projet inutile et imposé. Et donc dans ces cas-là, ils peuvent faire valoir des recours en justice pour dire en fait on peut pas continuer ces chantiers-là parce que il y a de la faune et de la flore à défendre.
Ok, donc il y a quand même quelques leviers, mais c'est très spécifique, c'est quand même assez rare qu'ils soient entendus, et donc ça explique finalement une certaine radicalité, comme on aime bien le dire, des interventions aujourd'hui, des moyens de lutte des manifestants et manifestantes écolos. Et d'ailleurs, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur le fond du problème, puisque effectivement, il y a eu toutes ces violences, il y a eu beaucoup de critiques médiatiques, mais tout ça pourquoi ? Pour protéger donc un chantier en cours d'une méga bassine. Alors je tiens à préciser quand même, pour juste introduire le sujet, que tout ce dont on a parlé auparavant, donc tout le dispositif policier avec les blindés, les quads, les hélicos, tout ça, ça représente un coût quand même. Mmh. Et on peut le chiffrer environ à 5 millions d'euros. Bon. En regard de ça, on s'aperçoit que une méga bassine comme celle de Sainte-Soline, ça coûte environ à construire. Hein, environ, bon, évidemment, c'est une moyenne, hein, parce que cette bassine, elle fait partie d'un complexe de 16 autres bassines. Donc, c'est un projet plus large. Mais si on fait une moyenne de toutes ces infrastructures, ça coûte environ 4,75 millions. Donc, en réalité, c'est une aberration économique, cette défense. Finalement, vous auriez mieux fait de détruire complètement la bassine, ça nous aurait coûté moins cher. D'autant plus que c'est un chantier qui est quand même financé, le chantier des méga-bassines, oui. Est financé à peu près à 70%
à fait,
par nos impôts. Donc, bon, et la police, bah, c'est 100% nos impôts. Donc voilà, on est quand même assez perdant dans cette histoire. Et bah, j'aimerais bien quand même que tu nous rappelles pourquoi on a eu cette aberration. Justement, ce déferlement de violence, et quel est le sujet en fait? Pourquoi vous étiez là-bas?
Bah, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que les forces de l'ordre n'étaient pas là pour protéger une infrastructure physique. Il n'y a virtuellement rien à détruire dans une bassine. Il peut y avoir des bâches au fond qui, lors de précédents. Il y a eu des faits divers de sabotage. Et également, théoriquement, si une pompe, mais la pompe n'est pas en place, des gens peuvent saboter la pompe. Mais c'était un chantier où il y avait juste des buttes de terre. Et de toute façon, ce n'était pas la question de la manifestation. L'idée n'était pas d'aller détruire une bassine. De toute façon, ça ne marche pas comme ça. Donc les forces de l'ordre n'étaient pas là du tout pour protéger une quelconque chose contre les actes de vandalisme. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu d'autres actions qui ont été menées en marge de la manif et qui avaient eu lieu déjà la dernière fois et qui ont eu lieu sans aucun souci, sans aucun...
Comme quoi ?
Bah, notamment des sabotages de canalisation. On parle de la pieuvre, donc en fait des différentes canalisations qui permettent en fait au réseau d'eau d'alimenter la bassine.
Je t'ai apprécié, du coup, la bassine étant en chantier, il n'y a pas d'eau dedans. Hein. Là, pour l'instant,
voilà.
Ça ne sert à rien.
Voilà, on ne peut pas non plus...
Des tuyaux vides.
Il n'y avait même pas de quoi y faire trempette en rentrant dedans, ce n'était pas non plus le plan. Mais donc effectivement, il y a eu des actes de sabotage de ces canalisations-là, de manière répétée et isolée, qui n'entrent pas dans le cadre de processus d'une stratégie de manifestation, en fait.
C'est vrai qu'on ne l'a pas du tout médiatisé.
Beaucoup moins, oui. Après, avoir les raisons, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas tant quelque chose de gênant que ça se construit rapidement. Je n'ai pas les chiffres en tête des dégâts à ce niveau-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on compare la présence policière lors du dernier événement et lors des deux autres saisons précédentes, on a clairement un changement de niveau complet. Donc là, tu parlais de 3200 policiers, donc on se disait... En allant, c'est à plus de 20% des flics du territoire qui sont là sur place. C'est assez chouette.
Rien que pour vous.
Rien que pour nous, on se sent flatté. Mais également, au niveau des tactiques, des stratégies, du matériel, ça n'avait plus rien à voir. On est à peu près certain qu'il y avait un sentiment de revanche à prendre de la part de... cette agressivité, elle pouvait s'exprimer comme ça. Et puis surtout, l'impossibilité de la part de l'État de montrer la moindre signe de faiblesse dans un contexte aussi tendu, quoi. Parce qu'effectivement, tu l'as dit toi-même, ils ont engagé leur responsabilité et leur argent à ce niveau-là. Le ministre de l'Agriculture a régulièrement été le support de la FNSEA sur ces projets-là. Je pense que c'est vraiment plus une stratégie politique de ne montrer, ne surtout pas perdre la face
d'autant plus qu'en fait, ce projet, il est hautement contestable. En fait, c'est ça le souci. C'est-à-dire que, oui. Bon, on aurait un débat très complexe avec vraiment des notions qui sont abordables que par des scientifiques de haut niveau. Ce serait autre chose, peut-être. Mais là, en réalité, les arguments sont quand même assez facilement entendables. Mm-hmm. Et donc, peut-être que tu peux nous en faire un petit exposé. Ça fait pas de mal.
Oui, bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que l'un de mes premiers réflexes, c'était d'aller chercher des scientifiques et un petit peu des rapports sur la fonctionnalité de ces retenues de substitution. Oui, parce que le terme dédié, c'est celui-là. Mais plus personne ne l'utilise, donc c'est peut-être un peu une victoire sémantique à défaut d'autre chose.
Oui, bravo, on peut le dire.
Donc ces retenues de substitution qui ont déjà été beaucoup utilisées, notamment dans les systèmes d'irrigation d'agriculture intensive aux États-Unis. Donc on a un peu d'expérience sur qu'est-ce que ça produit. Et donc, effectivement, ça va pallier à un besoin direct d'agriculture intensive, mais ça ne va pas du tout occasionner une stratégie de régulation de l'usage de l'eau, de rationnement, donc de pratique. Ça va juste engager une collectivité, une industrie, un secteur dans une dépendance à l'eau accrue qui va l'empêcher de faire marche arrière. Donc, c'est pas du tout des stratégies d'adaptation sur l'usage de l'eau. Et effectivement, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA, ou d'ailleurs, je ne pense pas que les gens de l'ENA soient les plus intelligents, donc c'est peut-être une mauvaise comparaison, mais on n'a pas vraiment besoin d'être un spécialiste du sujet pour comprendre que effectivement il n'y a pas grand chose à en tirer, parce qu'en fait le seul rapport qui pouvait donner une once de crédibilité à ces bassins là, donc là, un rapport du BRGM, avait été faite en l'état sur une commande d'un acteur local. Enfin, je sais plus si c'était une municipalité ou la préfecture. Enfin, c'était un acteur de l'État. Et en fait, les prévisions qu'ils avaient faites sur leur commande, donc en fait, ils répondaient juste à une commande, ils étaient faits sur les précipitations en l'état, donc à considérer que le climat ne change pas, que on garde les mêmes niveaux de précipitation.
Tout va bien.
Et donc, ça a été les premiers à dire dans des communiqués après coup, attendez, en fait, nos travaux, ils ont leurs limites, et on ne peut pas utiliser ça comme un argument pour justifier que les bassines sont quelque chose de fonctionnel.
D'autant plus que là, on est dans une période de sécheresse. Alors, je ne sais plus quel est le terme technique exact, mais c'est une sécheresse prolongée, puisqu'on est aussi en période hivernale, face à une absence de pluie assez considérable, qui fait que les nappes phréatiques sont déjà quasiment à sec.
Oui.
Donc, en réalité, le projet des bassines, c'est donc de faire remonter l'eau des nappes phréatiques dans les dites bassines.
Tout à fait.
Pour les rendre, entre guillemets, disponibles pour... Alors, qui donc, évidemment, les agricultures intensives, hein, donc ça, tu l'as dit, et je pense qu'on y reviendra après, parce que ça, c'est peut-être le volet plus social, sociétal, de cette infrastructure. Mais toujours est-il que rien que écologiquement parlant, enfin stratégiquement parlant, l'eau qui est comme ça mise dans ces bassines, bah déjà elle stagne, donc elle est potentiellement plus exposée à peut-être des pollutions extérieures que lorsqu'elle reste dans les nappes phréatiques, et ensuite elle s'évapore, alors qu'elle ne s'évapore pas sous la terre. Donc en réalité, on est en train de créer quelque chose qui peut-être appauvrit notre ressource en eau, enfin la quantité disponible d'eau pour nos cultures, qu'elles soient intensives ou pas. Mais l'objectif, c'est pas d'en avoir plus ou de préserver celle qu'on a. L'objectif, c'est de pouvoir la diriger. C'est ça.
L'objectif, c'est d'en avoir plus pour un certain type d'agriculture donnée aux dépens des autres.
Et voilà.
Ce qui se joue, en fait, c'est un enjeu de privatisation de la ressource en eau, en fait. Même si, effectivement, on peut discuter du fait qu'il y ait déjà des accords, que ce ne soit pas tout à fait quelque chose de public. Il y a vraiment un accaparement qui va se créer avec ces aménagements-là, s'ils sont faits, par des acteurs industriels qui promeuvent une agriculture intensive, désastreuse écologiquement, et au détriment de plus petits agriculteurs qui promeuvent des modèles alternatifs. Donc la Confédération Paysanne en parle assez bien. Mais effectivement, l'apport des scientifiques, et notamment des hydroclimatologues, c'est de dire que la meilleure façon de stocker de l'eau, ça reste dans une nappe phréatique. Et effectivement, pendant le début des chantiers, il y avait des communications complètement hors sol qui expliquaient que, voyons, une bassine, ça se remplit avec les précipitations qui tombent, et que donc, en fait, l'idée, c'est juste de profiter des pluies diluviennes pour récupérer cette eau-là, qui, de toute façon, serait perdue parce qu'elle irait dans le sol. Donc vraiment, on a un foutage de gueule assez, assez sympathique.
Ils osent toujours le sortir, cet argument, parce que là, je ne l'ai pas entendu.
Alors, de moins en moins, mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Je pense que l'année dernière, c'est encore des choses qui se disaient, il me semble, par la FNSEA et possiblement aussi par le ministre de l'Agriculture. C'est marrant.
Des professionnels du sujet.
Tout à fait, oui. Je pense que c'est les plus à même à répondre à nos besoins à ce niveau-là.
Bah, du coup, peut-être, moi, la question qui me vient maintenant, c'est de me dire, bon, il y a ces projets de bassines qui doivent profiter donc notamment aux agricultures intensives. Mais alors, qu'est-ce qui se passe localement, en fait? Est-ce que localement, il y a des agriculteurs ou des agricultrices qui sont pour ces projets de bassines?
Je dirais que ça a commencé par se passer localement. Aujourd'hui, on voit les manifestations sur place avec des gens qui viennent d'un peu partout. Mais effectivement, il n'y aurait rien eu s'il n'y avait pas des collectifs sur place qui aurait commencé le combat avant tout le monde, parce qu'effectivement, c'était une lutte locale de terrain qui les concernait directement pour des modèles d'agriculture qui les menaçaient. Donc, on a beaucoup vu Julien Leguet, qui est le porte-parole de Bassines Non Merci à ce niveau-là, et qui fait un travail très chouette. Mais Oui, effectivement, au départ, il y avait quelques grands propriétaires qui avaient ces projets-là, mais il y a des projets de bassines un peu partout sur le territoire, donc cette lutte-là, elle est transposable un peu partout. La seule spécificité, on va dire, c'est que dans le Marais Poitevin, il y a quand même une grande concentration de bassines et des projets qui ont lieu avant les autres. Donc on peut imaginer que des projets de bassines puissent fleurir un peu partout sur le territoire. Et donc c'est pour ça que c'était hyper important, et là on peut faire un parallèle avec les luttes antinucléaires des années 70, de s'opposer à des projets avant qu'ils soient établis de façon nationale. Et que tant que c'est encore la partie émergée de l'iceberg, quand c'est encore une jeune pousse qui n'a pas fini de grandir, on peut couper court. Mais une fois que les choses sont implantées, c'est trop tard, et c'est des aménagements qui nous engagent sur des décennies, voire plus. Donc sur place, effectivement, j'ai pas tout l'historique, mais il y a eu des recours juridiques, il y a eu des petites manifestations, il y a eu des actes de sabotage. Il y a eu une vidéo qui a depuis été publiée, effacée, qui était sur Vimeo, qui a été publié sur lundi matin. C'était le tuto comment saboter une bassine, qui avait fait beaucoup rire à l'époque, qui a vite été supprimé.
On se demande pourquoi.
Voilà, mais là, c'est important de bien distinguer ces actes-là des grosses manifestations. Et là, c'est là que les soulèvements de la Terre interviennent, c'est-à-dire ils ont cette capacité de mobiliser un réseau pour les envoyer sur des luttes locales. Parce que les soulèvements de la Terre ne s'occupent pas que des luttes anti-bassines. D'ailleurs, petit point de pub, ils organisent des manifestations contre l'autoroute Castres-Toulouse bientôt. Donc voilà.
Rendez-vous à Toulouse.
Voilà, j'ai plus les dates, je crois que c'est vers la fin du mois. Et régulièrement, ils vont titiller Monsanto et leur rappeler que leurs activités, c'est quand même pas ouf. Donc ça se passe à Lyon. Donc, voilà.
Bah, parfait. Je veux dire, on a toujours besoin d'acteurs comme ça qui justement fédèrent les gens autour de luttes. C'est vraiment très important d'être les gens en réseau.
C'est leur grande force, hein. C'est leur créneau. Et je pense que pour beaucoup, même si on en croit une note des renseignements généraux, ils concrétisent un petit peu ces perspectives de convergence des luttes. On va retrouver dans les cortèges des gens qui viennent d'endroits très différents, avec des stratégies très différentes, et qui en fait sont tous d'accord sur une chose, et c'est d'ailleurs devenu un slogan très facile en manif, c'est « tout le monde déteste les bassines ». C'est facile, ça marche bien, et oui, à part le gouvernement, il n'y a plus grand monde qui défend ce genre de truc, quoi.
D'accord, donc en fait, c'est plus tellement un sujet entre agriculteurs, il n'y a pas... Parce que j'imagine quand même qu'il y a des personnes qui vont être bénéficiaires de ces bassines. Et eux, tu as parlé de la FNSEA, donc c'est des personnes qui sont engagées dans ces processus-là.
Je ne sais pas dans quelle mesure les auditeurs, les auditrices sont familiers avec le sujet de l'agriculture en France. Mais la transformation du monde agricole, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. À partir de l'après-guerre, on a décidé que notre agriculture n'était pas assez moderne, il y avait beaucoup trop de gens dans les champs, il fallait moderniser tout ça. On a organisé plein d'étapes de transformation progressive. Et moi, en fait, je vois un peu les méga-bassines comme la suite logique de cette étape de transformation. C'est-à-dire de moins en moins de gens dans les champs, une agriculture de plus en plus mécanisée, de plus en plus chimique, donc de plus en plus aussi, du coup, génocidaire et inquiétante pour l'état des sols. Et du coup, l'idée, c'est d'aller justement favoriser la productivité, pas en termes de calories à l'hectare, mais vraiment en termes de nombre de personnes dans les champs. C'est juste, on veut qu'il y ait le moins de gens possible qui s'occupent de ça. Okay. Donc, mathématiquement, ces infrastructures vont bénéficier à certains gros industriels, gros agriculteurs, qui forcément sont à la FNSEA. Donc ceux-là, oui, ils vont en profiter. Ensuite, forcément, de par la construction de comment on veut réduire leur nombre, on ne peut pas dire qu'ils soient majoritaires en nombre. Par contre, ils ont un rapport de force avec eux pour le moment, ce qui leur a permis de faire tout ça. Par contre, j'ai parlé des probassines tout à l'heure. Il y a autre chose qui joue, c'est la répression policière, elle a lieu sur les bassines, et elle a lieu au quotidien pour les gens de la région de Sainte-Soline, de Mel et d'autour. Les flics sont à cran dans cette région-là, il y a des contrôles très régulièrement, et il y a une partie de la population qui ne se sentait pas concernée par ces problématiques-là, et qui aujourd'hui reporte sa colère de vivre une répression policière avec des contrôles réguliers, ce genre de choses, sur les manifestants, parce que tout ce qu'ils voient, c'est que depuis que les gens sont là, eux, ils vivent une vie infernale.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà, ça crée un niveau de tension supplémentaire.
Qui est pour le coup très local, quoi. C'est vraiment...
C'est ça. Et c'est compliqué. Je pense que ça... Je pense que c'est important de considérer la possibilité que ça puisse être des alliés, ces personnes-là, et de ne pas les placer directement comme, une menace, parce que enfin, il vaut mieux les agir contre un ennemi commun que se battre entre nous. Mais c'est sûr que c'est... Enfin, je pense que c'est important de considérer leur point de vue aussi, parce que ça reste des gens qui vivent ici et qui subissent de manière indirecte tout ce qui se passe, quoi.
Très bien. Écoute, je pense qu'on va revenir un petit peu sur les soulèvements de la Terre, et notamment puisque, enfin, parce que on avait envisagé leur dissolution, en tout cas une certaine personne que je ne nommerai pas puisque la prochaine chanson lui est dédiée. Je vous laisse écouter cette petite musique et on revient tout de suite pour parler un petit peu des soulèvements de la Terre.
Super.
Mais j'ai besoin des paroles.
Darmanin, Darmanin, petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale queue qu'on pourrait clouer sur ton cercueil, ta sale gueule de laquelle on arracherait un œil. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta sale loi qu'on cramera, tes sales mains qu'on coupera, dont on gardera les doigts, qu'au détail on vendra. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Ta langue trop bien pendue au micro de télé, on pourrait attraper et jeter à nos pieds. Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule, ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais. Tes costards bien serrés, tes idées mal placées, ton désir de régner nous font bien rigoler. Darmanin, Darmanin, déchire, range ta cerveau, range ta queue plancher, ferme ta gueule, la petite gueule, on sera le fasciste soudain, on n'oubliera jamais. Darmanin, ton échine nous servira de plancher sur lequel on dansera autour d'un feu de joie.
Darmanin, range tes mains, ferme ta gueule, c'est pas ça.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes toujours sur Délibéré, en notre compagnie pour parler de lutte écologiste et plus particulièrement de la manifestation du 25 mars contre la méga-bassine de Sainte-Soline. Nous recevons donc Marcel qui a été à cette manifestation et qui nous partage à la fois son expérience et puis également tout son combat, l'entièreté de son combat, puisque c'est quand même sur du long terme. Il n'y a pas eu que cette manifestation.
Oh, je ne suis pas tout seul.
Oui, bah, bien sûr, évidemment. Je pense que peut-être que porte-parole, c'était un petit peu trop de pression. Voilà, je préférais dire ton expérience personnelle. Mais après, tu peux te faire porte-parole si tu en as la capacité.
Je parle en mon nom propre.
Bon, on va peut-être rester sur cette note d'humilité, alors. mais comme je disais donc avant cette magnifique comptine dont malheureusement je n'ai pas retrouvé les auteurs et autrices et je suis très triste, donc je les remercie beaucoup. Tu peux peut-être dire d'où ça vient, c'était la chorale.
Moi je sais qu'elle a été notamment qu'elle a été présentée lors d'une interchorale à Bure. Il me semble que c'était en 2022, mais elle est aussi apparue sur le site de l'Animatin, donc si ces autrices et ces auteurs
veulent acquérir une renommée pour le futur.
Se reconnaissent, qu'elles se manifestent, parce que on ira boire un verre. Moi, je suis.
Ah ouais, carrément. Je suis fan. Et du coup, on va peut-être raccrocher les wagons justement par rapport à notre sujet de départ, qui est la lutte contre les méga-bassines et qui est notamment portée par les soulèvements de la Terre. Mmh. Et donc, tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu donc des propos tenus par notre ministre de l'Intérieur pour envisager leur dissolution.
Ouais, c'est inquiétant, comme d'habitude. Sa stratégie, c'est toujours la même, donc elle est, entre guillemets, cohérente avec ce qu'il a toujours fait. Après, c'est des paroles de Darmanin, c'est-à-dire, au bout d'un moment, quand il dit quoi, quand il amoncelle des déclarations comme ça, on ne sait pas trop quoi en penser. Moi, ça me désespère qu'on se contente de toujours commenter ces paroles-là. Donc, effectivement, il y a une coalition très, très soudée en face à lui, mais je ne suis pas au courant de l'avancée des procédures, et pour l'instant, à ma connaissance, c'est au point mort, il n'y a pas de choses entamées.
Bah oui, il devait y avoir une décision rendue le 13 avril, il me semble. Donc, oui. Vraiment, ça aurait dû normalement être discuté en Conseil des ministres, et puis ça n'a pas donné suite. Donc effectivement, on peut penser plutôt à un effet d'annonce, mais pas à une réelle volonté de dissolution. Et notamment parce que les soulèvements de la Terre ont reçu un soutien quand même assez considérable.
Oui, c'est chouette. Et c'est très chouette qu'ils aient pu profiter de ces événements pour conserver leur unité et trouver du soutien. Je pense que c'était vraiment très important. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien de voir cette solidarité-là après des événements aussi, aussi traumatisants. Ensuite, comme je disais, moi, je n'écoute pas trop parce que... Nos ministres disent beaucoup de choses. Il y a aussi eu des menaces de regarder le financement de la Ligue des droits de l'homme. Ce genre de propos, il n'avait plus été tenu depuis un gouvernement sous Vichy, donc ça pose aussi des questions.
Bah, ça a été même repris par la Première ministre.
Oui, alors je n'ai pas écouté la déclaration de...
C'est pas vraiment une déclaration, mais c'est au détour d'une petite phrase de dire qu'elle a beaucoup de respect pour la Ligue des droits de l'homme, mais que c'est vrai que le tournant qu'ils ont pris depuis notamment la défense du voile islamiste... Voilà.
Bah, comme je disais, ouais, moi je ne commente pas les commentaires de politique.
Voilà. D'accord, très bien. On va respecter ça. Alors je sais pas du coup si tu veux bien qu'on commente finalement les retoquages de notre gouvernement. Est-ce que ça te convient plus déjà? Puisqu'il y a eu pas mal de juste simplement pour rappeler le contexte, il y a eu pas mal d'organisations qui ont commencé à critiquer la France pour cette opération quasi-militaire de maintien de l'ordre, et pas des moindres. Donc, du coup, on a évidemment la Ligue des droits de l'homme, ça, on le sait. On a eu aussi Amnesty International, l'ONU, même le Conseil de l'Europe, alors que pourtant, c'est pas les premiers à se bouger quand même quand il se passe quelque chose. Donc... ça t'a touché ou pas?
Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire d'imaginer les humiliations du gouvernement qui se font remonter les bretelles par d'autres acteurs qui valent d'ailleurs pas forcément mieux qu'elles et eux. Hein. Ça, c'est important de le garder en mémoire. Ces états-là parlent avec leur propre casserole. Mais je pense, je vois vraiment plus comme un indicateur de tout un tas d'éléments qui montrent. Une montée en intensité de la répression que même les gouvernements autour de nous ne peuvent pas ignorer, quoi. Donc je pense pas que ça conduise à quoi que ce soit.
Oui, t'attends pas grand chose finalement de ces contestations qui restent sans effet.
Voilà, mais ça reste des annonces qui font plaisir, voir que le Premier ministre britannique ne vient pas en France parce que tu comprends, c'est trop violent. C'est un pied de nez, c'est facile, ça fait du bien. Je pense pas que...
Après, je pensais pas vraiment à ce genre de choses, mais je pensais plus quand même à des condamnations, par exemple, émanant de l'ONU. Ça, pour moi, j'avais l'impression que ça aurait peut-être plus d'impact, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de pouvoir après de ces institutions-là. C'est-à-dire qu'elles peuvent émettre un avis, mais
Je pense que je suis pas compétent pour répondre à cette question-là. Je suis pas calé en géopolitique internationale.
Ouais, géopolitique internationale, ça fait sérieux. Hein.
Oui, on
parle de ce qui nous concerne surtout.
J'ai pas envie de. J'ai l'impression de plus être. J'aurais plus un avis de pilier de comptoir qu'autre chose là-dessus, donc voilà, je vais m'abstenir.
Non, mais c'est tout à son honneur. Mais du coup, peut-être pour revenir un petit peu sur les modes de lutte, les moyens d'action et tout ça, quel avenir, quel projet vous avez pour la suite? Est-ce que vous avez peut-être tiré des conséquences de cette manifestation ou...
À nouveau, je peux parler en mon nom propre et peut-être éventuellement au nom des personnes qui m'accompagnaient un petit peu, que dans une certaine mesure. Moi, je ne suis pas un porte-parole des soulèvements de la Terre. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a tous vécu différemment et moi, j'avais une inquiétude assez forte à la suite de cette manifestation. C'était, déjà d'une part, les blessures qui auraient été occasionnées physiques, psychiques, et la cohésion. J'avais peur que, effectivement, les soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne, Bassines en Merci, il y a quelque chose qui unit toutes les personnes qui sont là contre les bassines. Et le risque, c'est que ça soit brisé, en fait, cette unité-là. Donc, il y a eu des conflits en interne dans des petites cellules sur ce qu'avaient vécu les gens. C'est normal, en fait, quand on vit des choses pareilles, c'est difficile de rester fédéré autour d'une défaite. Et c'est aussi pour ça que j'ai été vraiment très heureux de voir la réponse des soulèvements sur le soin aux personnes blessées, et ensuite le mouvement de solidarité et la fédération contre sa procédure de dissolution, enfin son annonce de dissolution. Donc en termes de stratégie, je pense que c'est difficile de réfléchir à toutes les échelles, mais j'espère qu'il y aura des remises en question. Moi en tout cas, ça m'a fait plus prendre conscience de où était ma place dans ce genre d'action. Et je projette, parce que j'ai pas eu de contact direct avec l'organisation des soulèvements, mais que, enfin, ils ont dû assez mal vivre, enfin, ils ont dû se poser la question de leur responsabilité, en fait, sur le déroulé de l'action.
Oui, ils s'attendaient pas, en fait, à
bien sûr, ils s'attendaient pas,
ils étaient pas prêts non plus à gérer.
Voilà, et on est bien d'accord que,
des blessés, en fait.
On ne redira jamais assez la répression policière, c'est la faute de la police et de l'État.
Complètement.
Mais du coup, il y a vraiment une responsabilité très forte de se dire comment on réagit face à ça, est-ce qu'on doit faire évoluer nos stratégies en suivant, en fait, l'évolution de la police qui... C'était impressionnant de voir leur évolution entre le dernier événement et celui-ci. Et voilà, quelles conséquences en tirer. Moi, je suis pas dans ces discussions-là, et je sais qu'elles ont lieu en interne, et c'est tant mieux. Mais je pense que la mise en question doit être personnelle et au niveau de l'orga pour se préparer à la suite, quoi.
Bah oui, notamment pour justement peut-être permettre à tous les manifestants et les manifestantes complètement pacifiques, parce que on est d'accord qu'il y a eu des personnes qui sont montées au contact, parce que oui, elles se sont défendues, mais c'était quand même pas la majorité des cortèges. Il y avait, je crois, 4 cortèges, c'est ça ?
Moi, j'en avais 3 en tête.
3 ?
Ensuite, okay. C'est sûr que dans le feu de l'action, on voit pas forcément tout, donc c'est vrai que moi, il y a aussi des choses que j'ai récupérées après coup. C'est pratique, les plans de drone, les journalistes, la Ligue des droits de l'homme qui comptent les grenades et les tirs. Donc,
oui, on les remercie.
Oui, on les remercie beaucoup.
Et du coup, oui, combien de cortèges il y avait à peu près ?
Pour moi, il y en avait 3.
Okay.
Donc 2 qui arrivaient en tenaille d'un côté est et côté ouest de la bassine, qui était censé marcher un poil plus vite. Et un troisième cortège un peu plus lent pour les personnes éventuellement qui avaient besoin d'y aller plus doucement.
Qui n'avaient pas trop envie de se fatiguer non plus.
Hein, voilà, parce que... ou tout simplement qui ne pouvaient pas marcher dans la boue aussi rapidement. Et donc... voilà, donc 3 cortèges. Et
en fait, la plupart quand même complètement pacifiques, quoi. C'est-à-dire,
oui,
c'était une marche
ça.
Dans les champs. Hein.
Mais à nouveau, c'est une stratégie de la police assez connue, que ce soit en manifestation ou ailleurs, ou même d'ailleurs dans les lobbies de l'industrie, d'aller extraire de groupes militants, vouloir vraiment créer une scission entre ce qu'ils pourraient considérer comme les éléments radicaux et les éléments plus modérés, pour pouvoir traiter plus facilement avec les personnes modérées et les enliser dans des processus de négociation, et pour les personnes les plus radicales, en fait, juste leur refuser un droit au dialogue et leur faire surbiais dans la répression. Donc l'enjeu, il est toujours de vraiment scinder ces deux blocs-là pour pouvoir traiter d'un côté et de l'autre. C'est ça. Les éditorialistes vont du coup placarder la violence des personnes radicales. Et en fait, c'est un truc que les soulèvements de la Terre a toujours refusé en bloc, et ça, c'est très bien. De dire qu'il n'y avait pas quelques éléments radicaux et des manifestants, il y avait un peuple uni pour le partage de l'eau. Je paraphrase leur communication.
Okay.
Donc oui, effectivement, c'est un cortège composite, il y a de tout. Je ne saurais pas dire avec quelle précision qui fait quoi. Et c'est le principe aussi de l'action, c'est de dresser un cadre de manifestation et de laisser une diversité des stratégies. C'est aussi pour ça que je pense que ça fait des retours de gens, c'est qu'en fait, il y a des retrouvailles sur place de personnes d'horizons extrêmement divers, et les gens se retrouvent dans ce format d'action, quoi.
Et c'est vrai que, pour le coup, ce que tu dis est vachement intéressant, parce que, effectivement, on a cette volonté dans toutes les luttes, absolument, de tous les secteurs, sur tous les sujets, de scinder les éléments les plus radicaux pour les criminaliser et pour les désolidariser de la lutte. Et donc, Effectivement, j'avais pas forcément envisagé les choses sous cet angle, mais de se dire, bah, finalement, on peut pas désunir ces éléments plus radicaux de
bah,
des
on
éléments.
Peut, mais il faut surtout pas. Et là, je renvoie à Grégoire Chamaillou, qu'on lira jamais assez, donc qui dans un livre qui s'appelle La société ingouvernable, qui explique très précisément comment, dès les années, il me semble que c'est 70, des anciens militaires, comme je crois que c'était Pagan, le nom de l'industriel reconverti en prestataire de conseil pour des grosses boîtes, qui expliquait les modus operandi pour casser des mouvements sociaux. Et c'est exactement ça qu'il décrit de façon très documentée, donc c'est très très instructif, je le conseille à tout le monde.
Précipitez-vous, allons tous lire.
Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable.
Très bien, pour ne plus laisser nos mouvements sociaux être démontés par qui veut.
Ouais. Dédicace Greenpeace, ce genre de choses.
Et maintenant, je vous propose de faire une petite pause musicale encore avec la Sonora de Starflame.
De mon clan, floué la priori qui tente même, floué au pilori de l'ignorance primaire, d'un amas de connerie. Tant qu'on refuse à fonder le faille, car la merde a la même odeur, où que l'on aille. Donc déplacer les chemins, fuir la grisaille, c'est comporter l'échéance, une vie qui tiraille. Comment faire front, lever la front, esclave de nos idées, mais pas encore nos patrons. Tant que les frères voient la victoire sans la sueur,
la gloire sans le risque,
l'amour sans y croire. Certains, ce qui est le problème,
d'autres s'en avancent. Certains,
si qu'on plaise,
d'autres les supplantent.
C'est certain, on va pas se bluffer. Ce monde est imparfait, mais ta vie est ce que t'en fais, tu le sais. Comment en ces temps imparfaits. Pour chaque cause, un effet. Comment si ce monde est imparfait. Ta vie est ce que t'en fais.
Dénaturé, marché saturé, contrat clôturé, radio capturé, concert annulé, wack adulé, les ailes brûlées, je rentre dans la mêlée. Je propage le fond, la forme et je ne m'engage qu'à fuir la norme. Et mon DJ en cœur se transforme, soit ta plateforme, stop tes réformes. À toi de voir qui crée l'histoire, à toi de voir qui s'en empare. Faussé au départ, trop de mecs visent la maille, l'esprit en faillite. La faille, où que l'on aille, l'argent passe avant les gens, l'épreuve est de taille. Mon caractère divergent, je m'instruis, poursuis, construis un futur forcé qui va porter ses fruits.
En ces temps imparfaits, pour chaque cause, un effet. Comment, si ce monde est imparfait, ta vie est ce que t'en fais.
Bajo el sol, la miseria pesa menos. Eso lo sabemos, todos jodidos de nacimiento. Aquí, afuera, preso me siento. Levanta, llega la tormenta, llegan los tiempos pa' que cambie la cosa. Cosa, la sonora en la jugada, con su sonido bestial. Si guapea, lo que hago yo es construir. Lo que digo yo es que quiero salir de donde me imponen quedar. Con mis sueños quieren acabar. Ando con fuerza y cara en la vida, caminando con mi herida. Manos arriba, aquí llegamos ya. Le canto al pueblo, mi gente es la que manda. Y dice,
la sonora Starflam, resto program. Proclam, clam. Sonora Starflam, si golpea, golpea.
La sonora
Starflam, resto program. Reta, clam. Sonora Starflam, si golpea, golpea.
Come on.
Avec nous sur Radio Libertaire, sur l'émission des Libérés. donc en compagnie de Marcel, militant écolo, on peut t'appeler militant écolo, écologiste. Qu'est-ce que tu préfères comment, toi?
Ouais, militant, ça me va.
Bon, mais militant tout court. Et qui nous a parlé très longuement de son expérience à la manifestation à Sainte-Soline contre les méga-bassines. Et plus généralement aussi des modes d'action de toute, de toute lutte sociale ou écologique. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aborder un petit sujet. Alors, peut-être si tu veux bien en parler avec nous. Qui monopolise un petit peu l'agenda médiatique ces temps-ci, mais là, il fallait quand même qu'on en parle. Nous, ça fait 3 émissions qu'on repousse. Il fallait quand même qu'on ait 10 minutes quelque part. Donc, la fameuse réforme des retraites. Hein. Oui, bon.
Oui, parce qu'il faut préserver notre système de répartition. C'est important.
Merci, merci. Voilà, ça, c'était exactement ce qu'on entend depuis 3 mois, hein, n'est-ce pas, hein, il me semble, ouais. À peu près. Ben voilà, magnifique.
Je pense depuis même plus que ça, hein, des années. C'est toujours le même discours.
En fait, on pourrait faire effectivement, si on faisait la chronologie de toute la case du système des retraites, ça remonte à plus loin que ça, ouais. En effet. Mais là, on a quand même eu hier une surprise qui n'en était pas une, puisque le Conseil constitutionnel a donc bien validé l'essentiel de la réforme, qui est l'article 7, le passage à 64 ans, et retoqué. Vraiment les aspects très très marginaux de cette réforme, c'est-à-dire que si jamais vous entendez que le Conseil constitutionnel a en partie censuré la réforme, bon, sachez quand même que ce sont les articles qui n'avaient vraiment rien à voir avec le financement des retraites, qui étaient censés être les éléments sociaux qui pouvaient faire passer la pilule. Bon, bah, tout ça, ça a été enlevé déjà. Ça n'avait pas beaucoup de sens à la base, mais ça en a encore moins maintenant. Moi, j'ai plutôt eu l'impression que personne n'était surpris du tout, que c'était tout à fait attendu. Enfin, même moi, je ne m'attendais pas à autre chose de la part du Conseil constitutionnel.
Oui.
Et je pense que pour vous deux, Claire ?
Non, c'est sûr que c'était prévisible. Il y a toujours cette déception et cette inquiétude vis-à-vis de l'avenir du militantisme et de voir quel tournant ça va prendre, et plus largement dans d'autres domaines, comment ça va être réparti, cet impact et cette manière de faire finalement, ce processus, sur quoi ça va jouer après.
D'autant plus que la demande de référendum, de passage par référendum...
Oui, il y a une deuxième demande qui a été faite.
D'accord, elle n'est pas encore examinée pour l'instant. La première a été rejetée, mais la seconde est en cours d'examen.
C'est ça.
D'accord, bon, bah on attend le résultat avec impatience.
Oui, à titre personnel, j'ai pas une grande foi dans ce genre de, on va dire, processus républicain. Il y a eu la motion de censure qui n'est pas passée, il y a eu le Conseil constitutionnel qui n'est pas passé, j'ai eu un 49-3, je sais pas, je pense que la liste elle est assez longue. J'avoue que moi, j'attendais beaucoup plus le Conseil constitutionnel sur le retoquage de la loi anti-squat, qui, il faut le rappeler, n'est pas juste pour les squats, mais en fait concerne tous les locataires. Mais bon, même ça, visiblement, ça a pas été, ils s'en sont pas saisis. Les retraites, oui, je pense que... Enfin, plus personne n'est surpris. Et
comment toi, t'envisages, du coup, de t'inscrire dans cette lutte à l'avenir? Parce qu'en fait, la question qui se pose, évidemment, c'est de se dire, on est arrivé dans une impasse puisque l'intersyndicale a choisi de ne pas appeler à la grève générale. Mmh. Donc... à entraîner finalement ce mouvement de grève perlé une fois par semaine pendant 3 mois qui a quand même mis pas mal de gens en galère parce que bon, c'est quand même des journées de salaire qui perdent et donc il y a une fatigue hein, au bout de 3 mois de ça. Et cette technique, bon, maintenant qu'elle a complètement échoué puisque de toute façon ils sont pas reçus, les syndicats sont pas reçus par le gouvernement et puis en même temps ne veulent pas plier, donc quelles sont les perspectives, en fait, pour ce moment, selon toi?
Moi, je peux parler à titre personnel. Je continue à aller en manif parce que je trouve ça récréatif. Parce que, en fait, c'est peut-être bête à dire, mais j'ai été vraiment heureusement surpris de voir la politisation très rapide de gens de mon entourage avec ce mouvement social qui se sont politisés au contact des cortèges... Et donc ça, pour moi, ça reste véritablement utile. Je me moque toujours de la CFDT qui vivent leur meilleure vie de manifestants dans ces cortèges-là, mais en fait, pouvoir unir les syndicats autour de quelque chose d'assez... Enfin, c'est quand même chouette que, en fait, le gouvernement offre une possibilité, en fait, d'unir tout ça.
Oui, c'est vrai que c'est les meilleurs artisans, finalement, voilà, du mouvement social,
ça,
on pourrait dire.
Ça, c'est, voilà, les gens l'avaient dit dès le départ sur le fait que tout le monde haïssait ce gouvernement. En revanche, effectivement, sur une échelle plus globale, je me pose la question des stratégies, mais ça, je suis un peu perdu sur cette question-là. Je sais qu'il y a plusieurs journalistes de Mediapart qui poussent cette remise en question parce qu'ils ont expliqué qu'en fait, l'impact sur l'économie, il est pas assez fort. Donc du coup, c'est pas des arguments qui vont peser dans la balance contre un gouvernement, entre guillemets, radicalisé. Ça, je crois que c'est les mots de la secrétaire de la CGT sur un gouvernement radicalisé. C'est plutôt cohérent. Donc, moi, je me sens moins à l'aise sur ce sujet-là. Ensuite, je vois plein d'initiatives fleurir hyper chouettes. Et à défaut d'avoir quelque chose de véritablement organisé, parce qu'on a vraiment un besoin d'organisation fort sur des blocages, sur des nouvelles stratégies d'action, bah en fait, si ces réseaux n'existent pas actuellement ou il n'est pas assez consolidé, bah c'est le moment ou jamais pour qu'ils se développent. Et c'est ce qu'on voit, donc c'est très chouette. Ensuite,
Donc toi, tu as plutôt confiance en fait dans l'idée que là, maintenant, les bases sont bien repolitisées, que les syndicats, entre guillemets, pas les représentants syndicaux, hein, mais les syndicats vraiment se sont reformés, ont repris de l'importance, ont réussi à agréger un peu, et que les travailleurs et travailleuses sont prêts, quoi, et prêtes.
Bah, c'est difficile d'avoir une vision.
On peut être positif un peu aussi, on a le droit. Hein.
Oui, bah disons que pour moi, c'est difficile de dépasser un peu ma petite bulle. Je n'ai pas non plus énormément épluché l'actualité dessus. Mais, oui, je pense que c'est un peu trop facile de résumer la situation à le mouvement s'essouffle. Enfin, pour moi, ça c'est... Oui, dans ces cas-là, autant allumer BFM, quoi. Ça va pas très vite, ça va pas très loin. Par contre, effectivement, j'ai des doutes, mais enfin,
c'était pas tellement pour dire que le mouvement s'essoufflait, mais c'était pour dire qu'on, parce que non, au contraire, en fait, on est arrivé à presque à un moment d'acmé en fait de ce mouvement. Ouais. Et c'est pas tellement qu'il s'essouffle, mais c'est qu'il a pas de mode d'expression.
Il ne transforme pas l'essai.
Bah, non, mais c'est ça, c'est que la rage, elle est là, l'envie d'en découdre, elle est là, et puis ça passe. En manif, ça s'extériorise pas vraiment, parce que comme tu dis, effectivement, c'est un moment sympa, mais les gens sentent bien que ça, c'est pas une pression suffisante. Et du coup, bah, justement, est-ce qu'il y aurait des actions? Toi, t'as parlé des blocages et tout ça, t'as déjà expérimenté ce genre de choses?
Ouais, ben, je pense que si les choses doivent évoluer, ça dépend que de nous, en fait. Et je dis nous, enfin, je pense tout le monde. Donc on est tous légitimes à réfléchir, s'organiser et voir où est-ce qu'on peut être plus utile. Il n'y a pas longtemps, on avait fait avec quelques personnes un calcul assez marrant. Il y a combien de personnes dans une manifestation par exemple, à Paris, il y avait combien de gens dans les manifestations récentes?
Ah, la dernière, là?
Ouais,
par exemple. Selon la CGT, 300 000, quelque chose.
300 000 là. Bon, allez, on va dire à la louche 300 000. Pour bloquer un garage de déboire, 10 personnes, c'est déjà assez suffisant, voire amplement suffisant, pour ne serait-ce que poser un barrage filtrant, donc qui va vraiment perturber fortement l'organisation, même en s'arrangeant avec les éboueurs. Et donc, du coup, à réduire de, on va dire, 80-90% les camions qui sortent du dépôt, à 10 personnes. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer 300 000 personnes d'une manifestation à une dizaine de personnes organisées devant un blocage. Mais ça pose un ordre d'idée. En fait, s'il y a une masse aussi motivée pour faire ce genre de manifestation, il y a les personnes disponibles qui pourraient faire des actions plus percutantes et plus impactantes. Oui, ça demande un autre investissement, mais en fait, les forces vives sont là.
Donc en fait, est-ce qu'au lieu d'aller en manif, là, le jour de la manif, bon, on va tous bloquer, quoi.
Bah,
on fait notre jour de grève, on se met en grève, hop.
Je pense que c'est important de réfléchir à au mieux canaliser son énergie, mais je le dis pas de façon jugeante, parce que ben voilà, je vais en manif quand j'ai envie d'aller en manif, et c'est plus une considération, un petit calcul marrant.
Stratégique aussi.
Voilà, c'est, en fait, ça redonne espoir. Hein. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que se lever tôt le matin pour aller faire des blocages, c'est fatigant, c'est moins festif qu'une manif. Des fois, il fait froid, et puis ça demande un emploi du temps adapté ou des quantités d'énergie que tous n'ont pas. Ben, moi, je suis dans un cas où j'ai le temps de le faire, donc je peux le faire, et du coup, tant mieux. Mais, en fait, on peut réfléchir aussi différemment. Par exemple, je disais 10 personnes. Oui, mais ok. Imaginons on fait un roulement sur la journée. 10 personnes toutes les heures, ça demande un investissement minimum, un minimum d'organisation, une tournante, et comme ça, on réduit la charge sur tout le monde. Enfin, voilà, je pense que c'est pas tant... Du coup, ça réduit la charge pour tout le monde et ça fait des choses beaucoup plus accessibles. Donc oui, c'est plus l'organisation qui manque que les forces vives et la motivation.
Moi, je voulais juste... rebondir sur ça, il y a quand même pas mal d'actions de blocage où il y a énormément de police et du coup on peut pas être juste 10. Enfin, moi j'ai été à plein d'endroits où on était 40 et on s'est fait, on s'est fait massacrer. Quoi.
Oui, oui.
Mais c'est... j'imagine que ça dépend des lieux et c'est très difficile de savoir à l'avance quand est-ce qu'il y aura de la répression, quand est-ce qu'il y aura des CRS, des policiers gentils, enfin pas gentils, des policiers pas aussi bien que les CRS, des chevaux. Oui. Il y a quand même des lieux où ils viennent avec des chevaux maintenant.
Des chevaux ?
Ouais, la garde montée, ça fait
peur. J'ai pas vu passer ça, moi.
Clairement, mon exemple de 10 personnes, il était pété. C'est un peu plus que ça. Mais en fait, on monte à 100 personnes.
Ah oui, c'est mieux. Déjà, c'est 100 mieux,
100 personnes,
là.
Ouais, c'est un peu mieux. Mais en fait, même là, on reste très, très loin des 300 000. On peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de blocages. Mais t'as raison, enfin, c'est...
Bah, disons qu'il faut être 10 très, très entraîné, quoi.
Et aussi, que je pense que de fait, moi, j'ai... Quand tu disais, j'ai assisté à la politisation des gens autour de soi, c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'au début, les gens allaient en manif. Et au lieu, le mouvement s'essouffle, mais en fait, surtout... Enfin, les gens disent ça, mais en fait, moi, j'ai surtout vu des gens qui n'allaient plus seulement en manif, mais qui aussi disaient, bon, ben, rendez-vous à quelle heure demain matin soit c'est 5h, c'est un peu hardcore, soit c'est 8h sur tel autre piquet de grève, soit c'est 11h pour une action de Sudrail. Enfin, c'est...
Ouais.
Les gens se mettent à faire des actions qui, avant, ça leur était pas venu à l'esprit. Mais...
Ah, ça, ouais. Clairement, ouais. Moi aussi, j'ai vraiment assisté à ça. C'est-à-dire que, bah, finalement, même les personnes qu'on aurait pu penser les plus aptes à faire des compromis, à débattre, à rentrer dans la conciliation, la concertation, se disent, bah, bon, là, quand même, on nous écoute pas, mince.
Ouais, c'est motivant, ça.
Et ça, c'est vrai que c'est assez motivant. Bon, on va faire une dernière petite pause avec cette chanson humoristique, L'Ours Noir.
L'ours noir, en principe, n'est pas carnivore, sauf s'il est affamé. Mais il ne s'attaque finalement pas à l'homme, du moins de sa propre initiative. Par contre, l'homme s'attaque à lui. Mais l'homme est stupide. Il s'attaque à n'importe quoi avec une prétention qui frise l'inconscience. Sa carabine à la main, son couteau à la ceinture. Il observe un moment le gibier. splendide. Une bête adulte, en pleine force de l'âge.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons au terme de notre émission donc, sur la manifestation contre les méga-bassines organisée à Sainte-Soline le 25 mars dernier. Nous avons eu la chance d'en parler avec Marcel qui y a été, qui nous a partagé son expérience. Et nous avons aussi un petit peu parlé quand même des moyens d'action, des modes de lutte, de leur évolution, de leur devenir. Et ça, je pense que ça... C'est pas mal aussi de se dire qu'il faut maintenant créer des choses et surtout créer du réseau. Et c'est pour ça que nous allons passer un petit instant promotion, puisque il y a tout plein de choses qui s'organisent. Donc déjà, tu voulais nous parler peut-être de quelque chose qui s'organise demain.
Ouais, ben du coup, un des événements post post manifestation méga-bassine, c'est qu'il y a plein de comités soulèvement de la terre ou comités collectifs de soutien qui fleurissent un peu partout. Et donc du coup, il y a une AG donc ce dimanche 16 avril. Qui aura lieu à la Parole Errante à Montreuil à 16h. Et du coup, ce sera l'occasion de discuter avec des groupes de travail sur le soutien et la suite des Soulèvements de la Terre en région France-Île-de-France.
Et ça, je pense qu'on a beaucoup à faire, donc surtout, n'hésitez pas à aller rejoindre cet AG, qui sera, j'en suis sûre, très suivi, étant donné l'actualité brûlante que constitue la lutte contre les méga-bassines. Ensuite, peut-être moi je vais en profiter aussi pour vous annoncer que je reviens aujourd'hui à 13h30 sur les Chroniques Rebelles animées par Christiane Passevent en deuxième partie d'émission pour parler de cinéma d'animation. Car oui, je fais ça aussi dans mon autre vie. Et je vais vous parler donc de plusieurs films qui sont sortis récemment et qui sont, qu'il faut absolument aller voir, à mon sens. Donc n'hésitez pas à vous rebrancher sur Radio Libertaire à 13h30 aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres actus qui importantes à annoncer? Oui, non, pas trop. Bon, bah, je pense que ça fait déjà un petit programme. De toute façon, des manifestations, il y en a plein qui fleurissent partout à Paris et ailleurs. Donc, on vous laisse vraiment la liberté d'y aller, notamment peut-être aux marches autonomes aussi, qui s'organisent, marches, manifestations autonomes, plus ça comme vous voulez, qui s'organisent dans Paris, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre le soir, c'est très festif également, n'est-ce pas? Très festif, peut-être un petit peu plus musclé, mais festif aussi. Et puis, je pense qu'on va peut-être pouvoir se quitter là, notamment sur une petite suggestion des vulves assassines, éventuellement pour peut-être trouver une solution aux violences policières, allons chercher le préfet avec elles.
Mussolini, il a le manteau de la Gestapo, le sourire carnassé de Pinochet, il a le teint gris du régime de Vichy.
Si la lune est pleine, que les chiens aboient, que le crapaud et musaraigne sortent des bois, si l'odeur pestilentielle se répand en ville, c'est qu'il rôde cruel, infâme nécrophile.
Le réveil hurle à la mort, il appelle sa horde. Mettons nos enfants aux abris, allons abattre l'ordre.
Épais brouillard enveloppe la région, c'est que le charognard y déploie ses légions.
Lis trois fois ce poème quand le soleil est haut, ardois sous un vieux chêne de cisaillés de faux. Choisis tes compagnons et soulage la terre, fais fuir le démon pour une année entière. Le préfet hurle. Le préfet hurle à la mort, il appelle sa horde. Mettons nos
Thank you.